Radio Classique avec David Abiker.
Et François-Olivier Gisbert qui est en train de m'expliquer qu'à la télé, il n'y a pas de stress, mais que la radio est dévoreuse d'énergie. Heureusement, il en reste pour nous.
Bonjour, encore un peu, oui.
Hein, mais heureusement, voilà, vous avez votre énergie radiophonique. France, première question. Comment partir d'une bonne intention? Marcher contre l'antisémitisme, Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, Union de l'Assemblée nationale, du Sénat. Tout commençait bien lundi avec cette chronique, cet appel lancé dans le Figaro. Et puis ensuite, patatras, on se prend les pieds dans le tapis de la désunion avec cette question, marcher ou pas avec le Front National.
Mais ça ne pouvait pas bien se passer.
Ah bon ?
Enfin, bah oui. Vous savez, il faut toujours revenir à cette phrase géniale de Jacques Chirac à propos du réchauffement climatique en 2002, vous vous souvenez, oui. À Johannesburg. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Bon, bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez une extrême gauche et des médias qui préfèrent nous parler du racisme anti-arabe, qui est une réalité, hein. Faut dire aussi, c'est une réalité, mais qui est incomparable avec l'ampleur de l'antisémitisme en France. Vous avez vu le cadre enchaîné, mercredi, ce qui se passe à l'université de Paris-Est Créteil. C'est juste incroyable, c'est répugnant.
Non, mais si vous cherchez...
On dirait l'Allemagne des années 30.
Si vous cherchez du courage, il faut pas aller le chercher dans la direction des universités, cher François-Olivier.
Bon, ben oui, justement. Eh ben, j'aimerais du courage en France, hein, parce que par exemple, je vais vous donner un petit exemple à propos de ça. En 2023, il y avait 589 actes antisémites, à peu près trois fois plus que d'actes anti-musulmans. Hein, ça, ce sont les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Donc, trois fois plus d'actes antisémites que d'actes anti-musulmans.
Je vous coupe,
pour une population juive, je vous rappelle qu'une population juive qui est au moins dix fois moins importante que la population musulmane.
Vous savez qu'il y a des actes anti-catholiques qui sont supérieurs en nombre aux actes antisémites. Mais il y a beaucoup plus de sépultures et de lieux catholiques.
C'est ça que je veux dire. Et tout ça n'a pas empêché, d'ailleurs, le recteur de la mosquée de Paris, Hafiz Shamseddine, qui est quelqu'un de très brillant et de très sympathique, qu'on dit très proche d'ailleurs des frères musulmans, de diffuser cette mosquée, diffuser des prêches anti-israéliens, hein, pas mal ces derniers temps, et lui est allé apporter au président de l'ARCOM, Roch-Olivier Maistre, une lettre pour se plaindre de la banalisation de la parole anti-musulmane en France. Ah bon ? Ben, il doit pas lire la presse, le recteur, ni regarder la télé, parce que justement, de ce point de vue, on peut pas dire que la presse soit vraiment concernée par l'antisémitisme, à quelques exceptions près. Moi, je trouve que c'est ça qui est absolument fascinant.
Je suis pas d'accord.
Ça en dit très long sur ce pays.
Je n'ai pas à débattre avec vous, mais je trouve qu'il y a énormément. Je veux pas débattre, mais il y a énormément de une sur les actes antisémites. Il y a beaucoup d'éditos sur les actes antisémites, à commencer par le Figaro aujourd'hui.
Mais attendez.
Il y a quand même beaucoup
d'où
de journalistes.
Vient.
Qui
l'antisémitisme, aujourd'hui, il y a traditionnellement en France un antisémitisme d'extrême droite. Mais ça, on le sait. C'est ça. Regardez le 19e siècle. L'un des grands best-sellers, c'est La France juive d'Edouard Drumont, qui est un livre répugnant, qui rappelle d'ailleurs Mein Kampf d'Adolf Hitler. Bon, c'est l'un des grands best-sellers du 19e siècle. Bon.
Yves Tréhard du Figaro dit que l'antisémitisme a changé de bord.
Oui,
c'est
voilà.
Ce matin,
et c'est ce que
édito.
Je suis d'accord une fois de plus avec Yves Tréhard, c'est-à-dire que aujourd'hui l'antisémitisme, il est principalement d'extrême gauche. Alors, c'est vrai que l'extrême gauche, c'est le camp du bien. Bien sûr, ils ont toujours raison, ils sont gentils, ils sont bien. C'est ce qu'ils croient eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils se voient. Ils sont pleins de bons sentiments. Et donc, pour eux, l'extrême droite, c'est toujours le mal. Mais l'extrême droite, pour moi, c'est pas le bien. C'est pas ce que je veux dire. Simplement, la bonne conscience, aujourd'hui, elle est toujours à gauche. Et or, je constate quand même, excusez-moi, et c'est là, c'est le sujet sur lequel, visiblement, on n'était pas d'accord, mais quand je vois le traitement des médias sur toujours l'extrême gauche, on a le sentiment quand même qu'on ne dit pas la réalité. Cette extrême gauche française, autour de la France insoumise, est ouvertement antisémite, parce que ça fait des voix. Je ne dis pas qu'ils sont antisémites, je dis qu'ils utilisent l'antisémitisme, parce qu'ils savent que dans les milieux, non pas musulmans, il ne faut jamais confondre les musulmans et les islamistes, c'est idiot, il y a beaucoup de gens qui le font, c'est idiot, mais les islamistes sont antisémites, puisque ça, c'est consubstantiel à l'islamisme, et on joue joue là-dessus. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Ça ne pouvait pas marcher, cette marche. C'est-à-dire, ça ne pouvait pas être un grand moment d'unanimité. Ça aurait été génial. Ça aurait été beau pour la France. Moi, j'aurais souhaité, avec tout le monde, Mélenchon, Le Pen, tout le monde, pour se manifester pour l'antisémitisme. Derrière Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, voilà, c'était très bien. Mais ça ne pouvait pas se faire, voilà, pour cette raison.
Comment vous expliquez, Franz-Olivier Gisbert, que une fois la France insoumise écartée par elle-même, puisqu'il refuse d'y aller à la suite d'ailleurs d'une prise d'opposition extrême de Jean-Luc Mélenchon, comment vous expliquez que une fois la France insoumise hors du coup, ce soit maintenant au sein de la Macronie qu'on se dise ah mais on peut pas défiler avec le Rassemblement National. Alors là il y a quand même on se tire une balle dans le pied.
Oui. Vous êtes d'accord?
Mais vous expliquez que la gauche molle de Renaissance, du parti majoritaire, comme vous expliquez que cette gauche molle
Oui, d'ailleurs, Olivier Véran, de ce point de vue, est représentatif. Mais enfin, il était en service commandé, mais c'est clairement un sous-doué de la politique. Et ils font un cadeau incroyable.
Service commandé par qui?
Par Emmanuel Macron, mais évidemment. Et parce que c'est le porte-parole en général, quand il dit quelque chose d'aussi important, c'est le Premier ministre ou le président de la République qui l'a briefé avant. Et sur un truc comme ça, c'est évidemment Macron qui l'a briefé.
Mais alors pourquoi s'aborder? Pourquoi Macron s'aborderait une initiative consensuelle de Larcher et de Yaël Braun-Pivet à travers
parce
une prise de parole de Olivier
Véran? Parce qu'il n'aime ni l'un ni l'autre. C'est une notoriété publique qui n'aime pas beaucoup Gérard Larcher. Pourquoi? Parce que Larcher est quelqu'un de très intelligent, de très brillant, ça il faut le dire, et il n'aime pas beaucoup notre président, les gens très brillants. Quant à Yaël Braun-Pivet, il n'a échappé à personne qu'elle est très autonome, enfin qu'elle fait un peu ce qu'elle veut, et qu'elle voilà, une personnalité forte. Et il n'aime pas les personnalités fortes, voilà, c'est pas plus que ça. Après, il leur veut pas du mal, mais je pense que cette histoire-là, si vous voulez, c'est de la mauvaise politique. Puisque aider Marine Le Pen, c'est effectivement, dans une histoire comme ça, c'est essayer de la mettre dans un corner, de la sortir de cette histoire. Or, les Français, il n'y a pas de Français, je pense, on n'arrivera pas à les convaincre que le Rassemblement National est un parti d'extrême droite. On n'arrivera pas à le convaincre que c'est un parti fasciste. Et c'est ça qui est affreux, d'ailleurs, c'est que, au lieu de l'attaquer, Marine Le Pen, sur l'impréparation, l'incompétence économique, son programme, d'ailleurs, économique, qui ressemble à celui de la gauche, en 1980, vous voyez, ce sera le même résultat. Bon, au lieu de faire ça, on dit, elle est fasciste. Et évidemment, personne ne peut le croire.
Je vais vous dire une chose, ça fait 40 ans que la gauche a pour seul programme de dénoncer les rapprochements éventuels des arbres, des pizzas, des partis politiques, des hommes, des femmes, les rapprochements auprès du Front National, c'est son seul projet, et donc elle s'est perdue en route et elle a du mal à changer de braquet. Voilà ma conviction.
Ça, c'est très bien dit.
Je voudrais qu'après les procès d'intention faits au RN, on passe au procès tout court cette semaine. Il y en a beaucoup qui concernent des politiques, d'actives ou d'anciens politiques, Dupond-Moretti, Bayrou, Sarkozy. La justice veille sur nos politiques.
Oui, veille. Oui, ça, c'est. Oui, on se croirait dans les années 40. Hein. Quel est le crime d'Éric Dupond-Moretti? C'est d'avoir porté plainte contre des magistrats qui avaient épluché ses relevés téléphoniques à l'occasion d'une cette enquête sur l'histoire idiote de l'affaire Bismuth, vous vous souvenez? Bon. Et il a retiré sa plainte dès qu'il était ministre, mais il a laissé courir une enquête administrative. Ah bah ça, il fallait pas le faire, parce que vous savez pourquoi? Les magistrats en France ont toujours raison. Hein, et c'est ça. Et donc vous avez la victime, Éric Dupond-Moretti, qui a été comme dans n'importe quelle dictature, comme en Russie ou comme en Venezuela, et ce qui a été ou en Chine, c'est un avocat qui a été on a épluché ses comptes téléphoniques pour voir ce qu'il fabriquait. Mais c'est honteux. Ça ne se fait pas dans une démocratie. Eh ben oui, ça se fait en France. Et en plus, les juges veulent avoir raison. Et d'ailleurs, ils sont allés pleurnicher hier au tribunal. C'était très amusant parce que c'était des victimes. Alors, tout est inversé, c'est-à-dire le ministre est coupable, alors que c'est une victime, et à l'inverse, les magistrats, eux, se considèrent comme des victimes.
Vous faites avocat à la Cour
mais regardez
de justice
Sarkozy,
de la République.
Mais oui, regardez Sarkozy, le procès en appel de Sarkozy, mais c'est une histoire de fou, Big Malion, vous savez, c'est vraiment, je pense, il y a quelque chose, ça sent, il y a un petit côté forfaiture là-dedans, parce que La question, c'est quoi? C'est l'explosion des dépenses de campagne de Sarkozy en 2012, 45 millions d'euros, alors que le plafond légal était à 22 500 000. Et Simplement, c'est l'entreprise Big Malion qui s'est goinfrée. Et vous savez, comme l'entreprise Big Malion, elle était tenue par Jean-François Copé et tous ses hommes. Et pourquoi Jean-François Copé n'a pas été embêté dans
pourquoi
cette histoire?
Ça vous fait rire.
Ben, parce que peut-être qu'il aurait parlé à la justice, je sais pas, le juge Tourneur, ils sont peut-être entendus, je ne sais pas, sur le dos de Nicolas Sarkozy.
Oui, là, vous allez voilà. Loin.
Ben
vous
oui,
allez
non, loin. Mais, ben non, mais, enfin, c'est des questions que je pose, je suis pas sûr du tout. Mais enfin, ça mérite d'être posé. Et puis, il y a des gens qui le disent, je les crois pas forcément. Mais c'est, tout ça, si vous voulez, ça montre la grande, comment dire, oui, on peut dire l'imposture d'une certaine justice française. Et pendant ce temps, Kobili Traoré, l'assassin de Sarah Halimi, qu'il a massacré en 2017 parce qu'elle était juive, en récitant des versets du Coran, eh ben, il est peut-être en liberté. Je ne sais pas. En tout cas, il a été jugé pénalement irresponsable. Ça, c'est aussi la justice française.
La boucle est bouclée par Franz-Olivier Gisbert. Je voudrais juste un mot sur le prix Renaudot que vous avez attribué à Anne Scott pour un livre intitulé « Les insolents, c'est l'histoire d'une femme qui en a marre de Paris » et qui part se retirer, se ressourcer en province.
C'est très actuel,
ça. Ben oui, c'est vrai.
On vit ça tout le temps. Oui,
bien sûr. Il y a plein de gens qui quittent Paris.
Ouais. Ça remonte aujourd'hui, ouais. C'est pour ça qu'il a plu. Et le prix Essai était attribué à Jean-Luc Barré pour le premier tome de son Magistral de Gaulle.
Et puis le prix Essai de l'année dernière, attribué, et on en est très fiers, à Guillaume Durand pour son livre sur Monet. Prix Essai 2022, prix Renaudot.
Puis il y a le Goncourt. Court, hein, et parce que c'est Veiller sur elle d'Andrea, qui est un très bon livre.
Et puis hier, je signale au passage qu'hier, le prix de Flore, présidé par Frédéric Becbédé, bien connu de nos services, a été attribué à Maria Pourchet. Marie Pourchet, pour un livre intitulé Western, qui réhabilite les hommes dans leur rôle de séducteur. Je ne vous demanderai pas combien vous avez pris de râteaux dans votre vie, mon cher Franz. À suivre la météo, le flash, et Franck Ferrand raconte.